Bonjour très chers auditeurs, Catherine, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission mensuelle. Alors, au sommaire de notre émission À votre santé, nous allons retrouver juste après le sommaire Margot pour sa chronique À vos marques prêts, bougez. Aujourd'hui, elle nous parlera des bienfaits de l'activité physique contre le cancer du sein. Puis, dans le dossier, eh bien, se préparer à l'arrivée du printemps, évidemment. Marine, dans Il était une fois, nous contera une belle histoire, le retour du printemps. Puis Clément nous rejoindra pour Une pierre sur le chemin avec la chrysoprase. Puis dans la rubrique Trucs et astuces, deux exercices de respiration. À tout de suite.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Je le vois, veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique, je vous parle de relations entre activité physique et prévention de certains cancers, en particulier le cancer du sein. Alors, que disent les études à propos de cette fameuse relation? Donc, en particulier concernant le cancer du sein, la plupart des études retrouvent une diminution du risque de tumeur lors de la pratique de l'activité physique. Et cette tendance est plus forte chez les femmes ménopausées que chez les plus jeunes. Le risque serait diminué de 6% par heure d'activité physique par semaine, ce qui est quand même largement notable et remarquable. Il existe donc une relation entre l'activité physique pratiquée et les bénéfices. Plus on va pratiquer de sport, et plus le bénéfice est important. Et les plus fortes réductions de risque donc, seraient observées pour des activités de loisirs, pour des activités pratiquées tout au long de la vie, pour une activité intense chez les femmes ménopausées en particulier, chez les femmes avec un indice de masse corporelle normal et chez les femmes ayant un ou plusieurs enfants. Donc, par ailleurs, chez les femmes ayant été traitées pour un cancer du sein, une activité physique de type marche, on va dire de 3 à 5 heures par semaine, diminuerait le risque de récidivisme ou de décès de 20 à 50%. C'est énorme. Dans ce contexte, l'activité physique permet donc d'accroître les capacités physiques, d'améliorer la qualité de vie et de diminuer la fatigue. sous réserve donc de respecter un programme prolongé avec un suivi régulier et d'observer donc la régularité de pratique et la progressivité dans les efforts. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les activités physiques permettent de prévenir le cancer du sein. Et un faisceau d'éléments scientifiques, les études et analyses confirment ces bénéfices. Toutes les activités physiques tout au long de la vie sont intéressantes. Il est important de pratiquer vraiment une activité qui vous plaise. Et plus on pratique en volume et en intensité, plus le bénéfice est important. Bien sûr, on ne va pas jusqu'à dépasser complètement ses limites et aller dans l'excès. On ne parle pas de surentraînement dans ce cas-là, mais plus vous allez pratiquer dans le respect de votre corps et de vos capacités, et meilleur ce sera par rapport à la prévention d'un cancer éventuel du sein. Bien sûr, tenez compte des pathologies associées. Si jamais vous êtes atteint de différentes pathologies, que ce soit musculaire, que ce soit de type diabète ou que ce soit encore au niveau cardiovasculaire, il faut en tenir compte dans votre activité, dans la pratique. Et préférez bien sûr une activité encadrée. Hein. Si vous êtes suivi donc d'un médecin du sport et pourquoi pas d'un éducateur ou d'un coach sportif qui va pouvoir vraiment vous diriger dans l'activité qui vous correspond le mieux. Et bien sûr, j'ajouterai enfin que cette activité physique doit être bien sûr associée à une alimentation équilibrée, variée et adaptée. Donc n'hésitez pas, bougez, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Alors je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Au revoir.
Merci Margot. Alors tout de suite, le dossier, le printemps. On y est en plein là, se préparer à l'arrivée du printemps. S'il y a bien une saison hein, où l'on va se préparer, c'est le printemps. Hein, bien sûr, nous adorons la chaleur et l'intimité de l'hiver, mais nous attendons avec encore plus d'impatience la venue du printemps. Hein, nous nous sentons dans une nouvelle énergie, avec l'envie de sortir, un nouvel élan, des nouvelles envies, des projets. Nous ressentons de la joie, nous sommes plus positifs grâce à cette formidable sensation de renaissance et de renouveau après l'hiver. L'arrivée du printemps nous incite à prendre un nouveau départ dans notre vie, mais aussi dans notre maison. Et nous ne sommes pas les seuls. Depuis des siècles déjà, le nettoyage de printemps est un rituel qui est pratiqué par des milliers de personnes dans le monde entier. Hein, je vais vous parler un petit peu de quelques rituels de nettoyage de printemps à travers le monde. Ce n'est pas un hasard si le nettoyage de printemps est un rituel qui est pratiqué depuis des milliers d'années. En Chine, tout est nettoyé de fond en comble en prévision du nouvel an chinois, également appelé Festival du printemps. Maison, vêtements, esprit, rien n'échappe à ce grand nettoyage. Les Chinois veulent ainsi éliminer le malheur et la malchance accumulés au cours de l'année écoulée. Une fois la maison propre et rangée, interdiction formelle de toucher les sols avec un balai. Vous risquez de balayer toute la chance qui vient d'y entrer en fin d'année. En Iran, par exemple, il existe aussi un rituel semblable, célébré le 21 mars de chaque année. Ce rituel est appelé Kanet et Kani, ce qui signifie littéralement « secouer la maison ». Et c'est exactement ce que le peuple iranien fait. Tout est nettoyé de fond en comble, des lits aux rideaux, sans oublier les tapis, les vêtements et tout le reste. Il est de coutume d'acheter des fleurs fraîchement coupées pour renouveler l'énergie positive et accueillir comme il se doit le commencement d'une nouvelle année et la venue du printemps. Il y a aussi en Thaïlande le festival de Songkran célèbre l'arrivée du printemps. Les Thaïlandais nettoient leur maison en accordant une attention toute particulière à l'asticage de toutes les images et statues de Bouddha qu'ils ont en leur possession. Ce rituel est ensuite célébré en public au cours d'une parade, les gens s'aspergeant d'eau mélangée à du parfum et des herbes aromatiques, symbole de chance et de bonheur pour la nouvelle année. Alors, le grand nettoyage de printemps, ça vous dit ? Hein, pourquoi éprouvons-nous le besoin de faire un grand nettoyage lors de la venue du printemps ? Eh bien, pour accueillir, pour recevoir, il faut faire de la place. Comme quand on change l'eau des fleurs. C'est plus fort que nous. Nous ressentons cette envie irrésistible d'ouvrir les fenêtres et d'éliminer ainsi toutes les odeurs de renfermés qui règnent dans notre maison. Sur le plan psychologique, nous nous débarrassons de la morosité de l'hiver pour accueillir la positivité et l'énergie printanière, tout comme l'ont fait les civilisations anciennes. Une maison propre signifie clarté et tranquillité d'esprit. Mais bien souvent, nous ne savons pas par où commencer. Eh bien, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, mais cela demande quand même un peu d'organisation. Alors, par exemple, vous pouvez dresser une liste. Moi, j'aime bien les listes. Hein, commencez par ce que vous préférez faire. Hein, ainsi, ça va vous donner encore plus d'énergie pour faire tout ce que vous aimez moins, en fait. Hein, et puis, vous pouvez barrer une fois que c'est terminé. Voilà, ça, c'est fait et ça motive. Alors, par exemple, commencez par laver les vitres hein, pour laisser filtrer les jolis rayons de soleil. Donc tout simplement hein, avec de l'eau, du vinaigre blanc, peut-être un peu de liquide vaisselle dans un vaporisateur, vous vaporisez joyeusement vos vitres. Utilisez un chiffon, du matériel que vous trouvez joli parce que c'est bien plus agréable. Et puis aussi ranger, donner, jeter. Ça c'est très important. Avant de nettoyer une pièce de fond en comble, commencez par ranger, trier, donner, jeter. Hein, concrètement, jeter, ça signifie tout ce que vous n'avez pas utilisé. Alors, on dit en principe au cours des 12 derniers mois. Bon, peut-être les 2 dernières années. Hein, si vous avez un petit peu de mal à vous séparer des choses, évitez de les ranger hein, dans un tiroir, car toutes ces choses que vous rangez trop longtemps, elles finiront par en ressortir et par s'accumuler de nouveau dans un coin de votre maison. Et ça empêche de renouveler l'énergie, d'amener de l'énergie nouvelle. Alors nettoyez les pièces de fond en comble. Un nettoyage de printemps se concentre généralement sur tout ce qui échappe à nos nettoyages que nous effectuons au moins une ou deux fois par mois. Réorganisez votre chambre à coucher. Hein, organisez vos placards, préparez votre garde-robe pour l'été, retirez tous les vêtements que vous n'avez pas portés au cours de ces 2 dernières années, voire les 12 derniers mois. Mettez-les dans des sacs pour les donner. Décrochez vos rideaux, rangez les manteaux d'hiver. Et puis, un petit vent de fraîcheur dans la salle de bain, les toilettes, évier, baignoire sont bien sûr nettoyées régulièrement. Mais lors d'un grand nettoyage de printemps, une approche différente s'impose. On va jeter les produits périmés hein, que l'on n'a pas utilisés depuis très longtemps. Pourquoi pas remplacer aussi les vieilles serviettes par de nouvelles, réorganiser aussi les étagères de manière plus efficace. Puis on va passer aussi à la cuisine, hein, en la nettoyant de fond en comble, en inspectant les placards, le garde-manger, toujours à la recherche de produits qui se seraient glissés et qu'on n'aurait pas vu depuis longtemps et qui seraient périmés. On peut remplacer également les torchons, les lavettes, les serpillières qu'on a utilisées durant toute l'année. On va profiter également du printemps pour nettoyer le frigo et décongeler le congélateur. Et aussi faire du tri hein, dans le congélateur pour laisser de la place aux nouvelles récoltes. Alors, on n'oublie pas dans le nettoyage de printemps, le grenier, la cave, le garage. Hein, c'est fou ce qu'on peut accumuler et ça facilite considérablement la tâche quand on a un déménagement prévu ou qui est imprévu même, surtout quand c'est imprévu. Alors, n'oubliez pas le jardin, si vous avez la chance d'en avoir un. Nettoyez les meubles de jardin, lavez les housses de coussin. pouvez utiliser un spray au vinaigre, hein, toujours le vinaigre blanc, pour éliminer les algues qui se sont accumulées sur vos meubles en teck ou en bois. Jetez tous les pots et autres accessoires de jardin qui n'ont pas survécu à l'hiver. En créant un rituel de nettoyage de printemps basé sur toutes ces activités, vous verrez que ce n'est pas aussi compliqué et difficile que ça. Et une fois que vous aurez terminé, vous pourrez accueillir cette nouvelle année dans une autre énergie, allégée, l'esprit tranquille et le sourire aux lèvres. Alors, nettoyer la maison, c'est indispensable, mais également nettoyer son corps. Et naturellement, hein, notre corps a la capacité de se nettoyer. Mais s'il y a bien un moment dans l'année où on va renforcer, où on va prendre plus de temps ou de pour s'occuper de son corps, eh bien c'est au printemps. Hein, en naturopathie, on préconise des cures chaque saison. Si vous n'en faites pas encore chaque saison, si vous démarrez même dans ce travail de nettoyage, de détoxination de votre corps qui est fondamental pour la santé, eh bien choisissez peut-être le printemps. Hein, il faut savoir que nos émonctoires, tous nos organes, hein, qui nettoient notre corps, se chargent de ce travail de nettoyage, mais seulement face à l'afflux massif de toxines apportées par une alimentation inappropriée, ou bien l'alcool, le tabac, le stress surtout, la pollution aussi, ils se retrouvent vite débordés et trop sollicités. Hein. Ils se fatiguent et ne peuvent assurer leurs fonctions correctement. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Même quand on fait très attention à son alimentation, à la pollution, notre manière de vivre actuellement fait que notre corps s'encrasse très rapidement. Donc c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de donner un petit coup de main à notre corps, à nos émonctoires, en pratiquant des cures de nettoyage régulièrement et particulièrement au printemps. En naturopathie, nous accordons donc au terrain une place prédominante. Un terrain propre et sain est la première condition pour se maintenir en bonne santé. Une surcharge en toxines affaiblit notre système immunitaire, provoque de la fatigue, du stress, des maladies. Et d'ailleurs, par exemple, voici quelques signes qui peuvent être révélateurs d'un mauvais fonctionnement du foie. Hein, des problèmes de peau divers, acné, eczéma, psoriasis, des malaises digestifs comme des ballonnements, des gaz, des crampes, la constipation, des diarrhées, un état nauséeux, hein, particulièrement après avoir consommé des aliments gras, une mauvaise haleine, une langue chargée le matin. Ce sont des signes que notre foie est surchargé, est engorgé, qu'il a besoin d'un sérieux coup de main pour se nettoyer. Une prise de poids aussi au niveau de l'abdomen, mais également des difficultés de concentration, des problèmes de sommeil, un manque d'énergie, de l'anémie, de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension artérielle, des migraines, l'hypoglycémie ou de la glycémie instable. Hein, sachez que les troubles du foie peuvent aggraver les troubles d'origine allergique, comme le rhume des foins, l'urticaire, l'asthme. Le syndrome prémenstruel peut être aussi favorisé par un foie en dysfonctionnement. Et d'ailleurs, les médecins chinois attribuent également le mauvais état des ongles et les raideurs musculaires et tendineuses à la faiblesse du foie. Les émotions et la pensée étant étroitement liées au fonctionnement des organes, nous aurons quelquefois du mal à contrôler certaines émotions en lien avec un déséquilibre du foie. On peut retrouver des états dépressifs, des insomnies, de l'anxiété, de l'irritabilité et de la colère. Alors, En naturopathie, on estime que les déchets colloïdaux, hein, les cols, tout ce que l'on va moucher, cracher par exemple, provoquent les maladies infectieuses telles que rhinite, sinusite, bronchite, angine, etc. Et les déchets cristalloïdes, donc les cristaux, entraînent des rhumatismes, de l'arthrite, de l'arthrose, la goutte et des calculs. Mais il y a un endroit du corps qui est en général fort intoxiqué également, c'est l'intestin. Hein, nous remarquons tous combien notre corps est encombré de substances qu'il n'arrive pas à éliminer. Or, les intestins remplissent d'importantes fonctions. Hein, c'est un immense filtre qui représente la seule barrière qui sépare notre milieu intérieur du milieu extérieur. Le rôle des intestins est de laisser passer les nutriments, comme les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les acides gras, mais aussi de débloquer les substances potentiellement toxiques, hein, comme les parasites, les virus, bactéries, les aliments incomplètement digérés, etc. Nos intestins ont également pour fonction de former notre système immunitaire. En effet, le système immunitaire de l'intestin est le plus important de l'organisme, de par la quantité de cellules immunitaires. L'intestin grêle joue par ailleurs aussi un rôle endocrinien. La sérotonine, par exemple, impliquée dans les processus dépressifs, est sécrétée à 90% dans l'intestin grêle. D'où l'importance de prendre soin de ces intestins, de ces organes en général et de les nettoyer. Donc je vais vous parler un petit peu des cures que l'on peut préconiser, que l'on peut suivre en naturopathie, et ça juste après une pause musicale avec Alain Leprest sur les pointes. À tout de suite.
Dans le désordre des coussins, les draps dessinaient ton dessin. J'ai voulu laisser mon empreinte. J'ai nagé contre ton bassin en traçant de ronds sur tes seins, sur tes poings. Qu'à sauter sur ta peau, et quand j'ai fini le tableau, j'ai encadré nos amours peintes. Je l'ai encadré dans mon cerveau, sans un marteau, sans escabeau, sans une pointe. En maillot blond sur le balcon, la lune a shooté son ballon, et les dredons étaient enceintes. Je t'ai quitté un peu brouillon sur la pointe de mes crayons, sur la pointe. L'amour, sa flanque, soit des ailes de saltimbanque, soit des ronces entre les étreintes. Mais c'est juste une moule pétanque, tu fais un carreau, tu le manques. Tu pointes.
Le dossier de À votre santé, aujourd'hui, se préparer à l'arrivée du printemps. Donc, dans la première partie du dossier, je vous parlais de l'importance, hein, de nettoyer sa maison et de nettoyer son corps. Donc, comment nettoyer son corps? Eh bien, en naturopathie, on va proposer des cures. Alors, Il y a la cure de détoxication, hein, qui sera une phase de drainage et d'élimination. La cure de revitalisation, qui sera une phase d'apport et de reconstruction. Et puis aussi une cure de stabilisation, qui sera une phase d'équilibre, d'ajustement, de mise en place de nouvelles habitudes, d'hygiène de vie. Ces trois cures peuvent se succéder ou s'entremêler suivant nos besoins. Mais là, aujourd'hui, je ne vous parlerai que de la cure de détoxication. Hein, c'est une cure qui se met en place pour améliorer les capacités de l'organisme, hein, et non seulement sortir des toxines. Elle peut être proposée pour quelques jours à quelques semaines. Donc, cela demande pas mal d'énergie quand même, hein, une cure pour supporter l'intensité de la détoxication, ainsi que des conditions adéquates pour ne pas épuiser l'organisme. Hein, donc, n'hésitez pas à demander toujours l'avis de votre naturopathe pour voir s'il est intéressant de démarrer une cure de détoxication ou peut-être voir à revitaliser avant. Hein, il est parfois nécessaire de commencer par une cure de revitalisation si votre force vitale n'est pas suffisante ou si vous avez des carences, hein, car cela pourrait empêcher le bon déroulement de la cure de détoxication. Alors, il y a trois temps, hein, dans ce type de cure. Première phase, il s'agit d'assécher la source des surcharges, bien entendu. Dans un premier temps, donc, on va chercher à stopper l'entrée dans notre organisme des toxiques, hein, ainsi que les provocateurs de toxines. Bon, principalement par l'alimentation, hein, en amenant à une prise de conscience des excès alimentaires, par exemple, et de l'impact de la qualité, de la quantité que nous ingérons au quotidien sur l'encrassement de nos humeurs, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Puis, il y aura une mise au repos progressive de la digestion. La digestion, nous prenant 80% de notre énergie au quotidien, une mise au repos permettra de rediriger l'énergie vers le processus de détoxication profond. Cela se fera par une alimentation hypotoxique, une monodiète, voire un jeûne, en fonction de la personne. Donc ça, c'est ponctuel, hein. Par exemple, le régime hypotoxique, on va essayer pendant le temps qu'on peut, en fait. Si on peut une semaine, deux semaines, voire trois semaines, ben c'est parfait. Surtout quand on n'en a pas l'habitude. Donc, les principes de base, hein, du régime hypotoxique, eh bien, c'est pas de produits industriels transformés, tout doit être fait maison, hein, ou encore provenir de petits producteurs locaux. C'est limiter le plus possible l'apport en produits chimiques et artificiels. On évite le gluten, pas de produits laitiers. Les aliments sont bio le plus possible. Les poissons, les viandes sont consommés avec modération. On limite le gras, hein, en tenant toutefois compte du fait que certains gras, comme l'avocat, la noix, l'olive, coco, etc., sont excellents pour la santé. On va limiter le sucre, éviter au maximum le sucre, surtout les sucres raffinés. On conserve un peu de légumineuses et on veille à ce que la cuisson des aliments se fasse à basse température. Alors, je tiens à préciser, c'est important que l'on n'arrive pas à ces changements du jour au lendemain. C'est normal. Donnez-vous tout le temps nécessaire, une chose après l'autre, pas à pas. On n'essaye pas de changer tout d'un seul coup, ça ne marche pas. Déjà, avant toute chose, du plaisir et de la simplicité. On se donne le temps d'amener ces changements sur une année, voire deux années, et ça se fait tout seul. Donc, on est allé à la source des surcharges. On va maintenant stimuler nos organes qui nettoient, donc les émonctoires. Hein. Une fois qu'on a contrôlé l'entrée des toxiques et redirigé l'énergie, eh bien, on va s'occuper de la sortie. Hein, donc, notre corps est composé de 4 portes de sortie, le foie et l'intestin qui travaillent ensemble, les reins, les poumons et la peau. À noter que pour les femmes, l'utérus est aussi un organe qui nettoie, hein, un émonctoire. On va donc par des moyens naturels les soutenir et les stimuler pour favoriser un drainage et une élimination confortable et bien réalisée. Avec par exemple l'hydrothérapie, hein, des bains chauds, des bains dérivatifs, etc. Ou la réflexologie plantaire ou auriculaire, le bol d'air jacquier, hein, qui est un appareil qui propulse une brume à base d'huile essentielle de pin stimulant l'oxygénation cellulaire. On pourra utiliser le sauna, le hammam, les massages, hein, qui drainent bien, et bien entendu l'utilisation des plantes, de l'argile, des huiles essentielles, l'exercice physique, hein, qui nous permet de transpirer, d'éliminer, et bien d'autres choses encore. Et puis le troisième point sur lequel on va porter notre attention, c'est notre esprit libéré. Hein, notre esprit, nos pensées, notre mental, nos émotions qui prennent également beaucoup d'énergie et génèrent beaucoup de toxines. Nos pensées négatives ont un impact sur chacune de nos cellules directement. Il sera donc important de travailler également avec des techniques de relaxation, de réflexologie, de sophrologie, de méditation, de respiration, de mouvement, etc. pour rediriger toute l'énergie possible vers le nettoyage, la détox, s'assurant ainsi une détox bien réalisée et en toute sécurité. Donc, une fois la cure de détoxination ou détoxication terminée, il y aura une cure de revitalisation à suivre pour renforcer l'organisme qui a fait un travail intense lors de la détoxication. Puis suivra une cure de stabilisation pour mettre en place des nouvelles habitudes de vie permettant au corps de garder l'équilibre retrouvé grâce à ces 2 premières cures. Donc les 3 cures sont complémentaires et indissociables pour retrouver une vitalité optimale. Alors j'aimerais vous donner peut-être quelques exemples de ce que l'on peut faire aussi au printemps, démarrer si vous n'en avez peut-être pas l'habitude. Eh bien peut-être une monodiète, hein, c'est quelque chose de très intéressant. Elle permet un nettoyage rapide de l'organisme, un décrassement, l'élimination des toxines qui l'encombrent. Donc une monodiète, eh bien cela consiste à manger un seul et même aliment pendant 1, 2 ou même 3 jours ou plus si vous pouvez. Hein, la quantité n'est pas limitée. On mange de cet aliment autant que l'on veut et aussi souvent qu'on en éprouve le besoin. Lorsque l'on ne consomme qu'un seul aliment au cours d'un repas et même en grande quantité, on élimine. Alors que si l'on mange peu, mais en faisant des mélanges alimentaires, on assimile. L'organisme ne trouve pas dans une monodiète toute la variété des nutriments dont il a besoin. Il est donc obligé de les puiser dans ses réserves ou de les synthétiser grâce à des chaînes métaboliques complexes, coûteuses en énergie. Donc le foie fortement sollicité comme organe de synthèse et d'élimination. Hein, il est fortement sollicité. Durant ce temps de restriction alimentaire, notre fonction hépatique est réduite au minimum, permettant ainsi à notre foie de se désengorger et de se régénérer afin d'accomplir les multiples fonctions pour lesquelles il a été conçu, notamment au niveau immunitaire, hormonal et émonctoriel. Grâce à une monodiète, le sang se purifie, ce qui lui permet de circuler plus librement et donc de mieux nourrir nos cellules, mais aussi de les débarrasser de leurs déchets métaboliques. De plus, aucune énergie n'est requise pour notre métabolisme digestif, limitant ainsi la déperdition de notre force vitale. Lors d'une monodiète, les reins, les autres émonctoires sont également mis au repos. Ils peuvent travailler plus tranquillement à éliminer les déchets anciens. Quant à la perte de poids, bien elle s'explique par le surcoût énergétique, mais également à une petite perte musculaire qui se régule très bien lorsque l'on pratique un peu de marche. Donc ça, moi, je le préconise, la monodiète au printemps. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de perdre quelques kilos, un peu de poids, et qui se lancent dans des régimes drastiques et qui ne marchent pas finalement. Alors que de pratiquer une monodiète, c'est vraiment un moyen aussi de réguler son poids. Donc en règle générale, hein, pour une cure détoxifiante, privilégiez les changements de saison, surtout le printemps, mais c'est selon vos besoins quand même, hein, et vos envies, écoutez-vous. Vous pouvez également manger du riz, des fruits, des légumes crus ou légèrement cuits pour leur apport en énergie, vitamines, oligo-éléments. Consommer des aliments frais et bio, hein, toujours. Et puis, la veille de votre cure, eh bien, vous allez vous préparer quelque chose de léger, une soupe de légumes, sans pommes de terre par exemple, de la compote de fruits, en tout cas un repas léger pour commencer doucement le nettoyage des organes. Il est très important de bien s'hydrater, hein, durant votre cure. Buvez de l'eau régulièrement, au moins 1 litre d'eau pure, peu minéralisée par jour. Buvez en plus, si vous aimez, du thé vert, des infusions, autant que vous en aurez envie. Donc, je le rappelle, vous pouvez faire une cure d'une demi-journée, une journée complète, 2 ou 3 jours, voire plus. Mais commencez doucement, à votre rythme. Écoutez-vous. Cela ne doit pas être une expérience difficile à vivre, surtout pas. Ainsi, vous pourrez le répéter souvent, régulièrement et en faire une habitude dans votre vie de tous les jours. Sachez aussi que lors des premières cures, surtout lorsque le nettoyage à faire est important, on peut vivre des sensations pas très agréable, hein, c'est vrai. Il faut le savoir, c'est tout à fait normal. Quand on fait du nettoyage au niveau de notre corps, on peut ressentir un peu de nausée, de crampes d'estomac, avoir une transpiration et des odeurs un peu fortes, un petit peu de stress dû au changement. Hein, mais tout cela, sachez-le, n'est que passager. C'est vraiment le signe que le travail se fait. Donc pour une première expérience, pourquoi ne pas choisir un week-end ou le temps des vacances? C'est beaucoup plus simple. Donc si vous voulez avoir d'autres renseignements, hein, sur les monodiètes, que ce soit du soir, un jour sur 7, alterné, voire même une monodiète stricte, n'hésitez pas à consulter votre naturopathe. Donc pour une monodiète, hein, on peut choisir des aliments que vous aimez, hein, tout simplement, parmi les fruits et les légumes. Hein. Oui, on va pas faire une monodiète de frites ou une monodiète de pâtes. Hein, des fruits ou des légumes que vous pouvez choisir pour leurs propriétés aussi. Hein. Par exemple, la pomme. La pomme, c'est ce qu'il y a de... La pomme ou la banane, hein, c'est ce qu'il y a de plus facile pour démarrer. Bon, la pomme, c'est passe-partout, elle tient dans la poche, le sac. En plus de stimuler, décongestionner les cellules du foie, c'est un dépuratif général. Hein. Elle possède des qualités anti-rhumatismales, diurétiques, laxatives, douces. La banane aussi, qui est très nutritive, elle tient bien au corps. Hein, si vous avez peur d'avoir faim au début d'une monodiète, eh bien, vous pouvez commencer par la banane. Elle convient également très bien aux personnes minces, anxieuses, ayant tendance à être frileuses. Hein, ça réchauffe, la banane, c'est sucré. Mais vous pouvez faire une monodiète avec des carottes. Alors, carottes râpées, carottes crues, carottes peu cuites. Hein, vous pouvez alterner dans la journée. C'est très diurétique. Hein, les carottes nettoient efficacement les intestins grâce aux fibres qu'elles contiennent. En revanche, elle n'est pas très conseillée si vous êtes sujette aux infections urinaires et aux colites. Vous choisirez d'autres choses. Alors, vous pouvez faire également une monodiète de riz, hein, du riz complet ou semi-complet. C'est aussi très facile de démarrer une monodiète si vous n'avez pas l'habitude avec le riz. C'est un puissant détoxifiant. Il faut savoir qu'une cure d'une journée, donc vous ne mangez du riz que pendant cette journée, eh bien ça nettoie 10% du sang. Deux jours de cure de riz, de monodiète de riz, ça nettoie 20%, etc. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, tout votre sang est nettoyé. Mais bon, 10 jours, c'est pas forcément simple. Mais commencer par une journée, c'est très très bien. Voilà, d'autant plus que vous pouvez agrémenter d'épices ou d'aromates, hein, le riz que vous le mangez en quantité que vous voulez, mais vous verrez au bout de quelques jours, vous en mangerez de moins en moins. Alors bien sûr, pour le nettoyage, il y a aussi le jeûne. Hein, vous pouvez jeûner une demi-journée, une journée complète. Bon, au-delà de 3 ou 4 jours, il faut prendre des précautions et surtout, hein, demander l'avis de votre médecin et de votre naturopathe. Voilà donc les cures de nettoyage au printemps, c'est vraiment excellent. Voilà, alors à la fin de l'émission, je vous proposerai deux exercices dans la rubrique trucs et astuces, deux exercices de respiration, parce que prendre le temps de respirer, c'est aussi nettoyer et revitaliser son corps. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront à démarrer le printemps sur les chapeaux de roue. Vous pouvez également vous faire un petit rituel, profiter en allant marcher dans la nature, de marcher en conscience, ramener de la promenade des objets, des fleurs, des bourgeons, des écorces, des pierres. Fabriquez-vous un petit autel pour méditer, utiliser tous ces objets pour faire des mandalas, des collages et soyez plein de gratitude pour célébrer le printemps. Petite pause musicale tout de suite avec Amy Winehouse Rehab et nous nous retrouvons juste après pour la chronique de Marine. Catherine dans À votre santé, notre émission mensuelle sur la santé et le bien-être au naturel. Notre chronique Il était une fois avec Marine qui nous conte le retour du printemps évidemment.
La vieille femme de l'hiver était très grande, très vieille et tout le monde en avait peur. Son visage était bleu, elle n'avait qu'un œil. Ses dents étaient rouges comme de la rouille et ses cheveux blancs longs comme une fougère recouverte de neige. Chaque automne, elle frappait le sol de son marteau magique et changeait l'herbe en lames de glace. Tout au long de l'hiver, la vieille femme gardait captive une belle et jeune femme du nom de Bride, parce que son fils préféré, qui s'appelait Angus, était toujours amoureux d'elle. Elle savait que s'il épousait Bride, il serait à même de prendre sa place comme roi de l'été, et Bride serait sa reine. Alors, le règne de la vieille femme toucherait à son terme. Angus regarda dans le puits de jeunesse qui se trouve au cœur de l'île verte, là où il vivait, et vit Bride, seule, pleurant dans le château où elle était prisonnière. « Je dois tout de suite aller la libérer, » dit-il. Alors Angus monta sur son cheval blanc et chevaucha vers l'est. Pendant 3 jours, Angus parcourut la contrée, mais il ne trouva pas Bride. Un jour, alors qu'il traversait une forêt épaisse, il entendit une voix douce et triste, qui chantait parmi les arbres lointains. C'était Bride, dans les bois, près du château, où la vieille femme l'avait envoyé chercher du bois pour le feu. Angus regarda la jeune fille qu'il n'avait jamais vue qu'en vision et l'appela par son nom. Quand elle leva les yeux et le vit, ce fut comme si le soleil perçait la glace autour de son cœur gelé. Elle se réchauffa de son regard et ses mots d'amour firent fondre tous ses chagrins. Angus lui dit « Je suis venu pour vous délivrer de la vieille femme qui vous a retenu prisonnière tout un hiver. » Bride répondit « C'est pour moi un jour de grande joie. » Car le jour où Angus rencontra Bride était la première visite du printemps. Mais le règne de la vieille femme n'était pas encore achevé. Quand elle découvrit ce qui était arrivé, elle entra dans une colère noire. Elle déchaîna le vent, qui faisait tomber des averses de grêlons froids. Ce vent dura 4 jours et tua des moutons et des agneaux nouveau-nés sur les landes. Enfin, elle fit s'élever le vent tourbillonnant qu'on appelle le balayeur et dont les rafales arrachent les branches des arbres bourgeonnants et les fleurs aux couleurs vives de leurs tiges. Puis, un beau matin, début mars, la vieille femme vit Angus, chevauchant hardiment à travers les collines sur son cheval blanc. Elle sentit avec certitude que le flux de la vie parcourait les veines de la terre et sut qu'elle n'avait pas la force de s'y opposer. Elle jeta à terre son marteau magique et devint une grosse pierre. Elle fut contrainte de rester là, jusqu'au retour de l'hiver. Angus et Bride se marièrent, et partout où ils posaient le pied, des pissenlits sortaient. Et quand ils arrivèrent sur le rivage de l'océan, les oiseaux commencèrent à chanter de joie. Enfin, le printemps était là.
Merci Marine. Notre émission mensuelle À votre santé, de la légèreté autour de la santé et du bien-être au naturel. Juste après une pause musicale avec Sophie Hunger, Le vent l'emportera, nous retrouverons Clément et la chrysoprase. À tout de suite.
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. C'est la mitraille, cette paix qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent l'emportera. Génétique comme en ouillère, des chromosomes, non l'atmosphère et des taxes.
aussi pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera.
Tout de suite, la chronique de Clément, une pierre sur le chemin, avec aujourd'hui, je crois, la chrysoprase. Bonjour Clément.
Bonjour. Oui, en effet, la chrysoprase, donc, qui est une pierre de printemps, car elle permet de passer d'un cycle à un autre.
Super.
Donc, son nom provient du grec chrysos, signifiant mordoré, doré, et prasos, signifiant poireau, pour la couleur.
Elle est verte, cette pierre.
Elle est verte, dorée. La chrysoprase est la variété calcédoine la plus précieuse et la plus appréciée en raison de sa belle couleur verte, justement. Au Moyen-Âge, on l'utilisait pour soulager la goutte et pour déceler les poisons. En Grèce, c'était la pierre transitoire entre deux phases de la destinée. Pierre de maturation et de métamorphose, c'est la pierre du printemps, d'un nouveau cycle de vie. Sur le plan physique, la chrysoprase est idéale pour les femmes enceintes et elle permettrait un accouchement en douceur. Elle améliore la fécondité des deux sexes et soulage les affections en relation avec la stérilité. Elle régule les excès de tension artérielle et renforce le métabolisme. Elle améliore également la vision. Sur le plan psychique, la chrysoprase atténue les complexes et clarifie les pensées. Elle calme les nerfs et le stress. Elle diminue l'inquiétude et apporte une grande faculté d'adaptation. Elle apporte le calme et l'harmonie dans le couple. Excellente pierre de protection, la chrysoprase permet de conclure un cycle et d'en relancer un nouveau.
Ah ben c'est formidable ça.
Voilà. Pierre de printemps.
La pierre de printemps qu'on peut porter sur soi, oui, en bijoux,
voilà,
ou dans
c'est
la poche.
Bah, c'était une pierre qui était très prisée en fait au niveau joaillerie au Moyen Âge, du fait de son aspect vert qui rappelait l'émeraude et de son côté un petit peu doré.
Très bien, merci Clément.
Avec plaisir.
À
et
bientôt. Catherine, dans À votre santé, nous arrivons bientôt au terme de l'émission. Et dans la rubrique trucs et astuces, j'aimerais vous proposer aujourd'hui deux exercices de respiration pour le corps et l'esprit. Avez-vous besoin de vous libérer du stress? Avez-vous besoin de plus de clarté et d'énergie aujourd'hui? Eh bien, asseyez-vous confortablement, le dos droit, et commencez par inspirer et expirer lentement. 7 fois pour chaque respiration. Et ensuite, faites une pause. Répétez cela pendant 3 à 5 minutes. Assurez-vous que votre abdomen ainsi que votre poitrine est impliqué dans votre respiration. Lorsque vous inspirez, le ventre doit se remplir d'air tout en se déplaçant loin de la colonne vertébrale. Et à la fin de l'expiration, rapprochez légèrement votre ventre de votre colonne vertébrale. Expérimentez cet exercice. Prenez juste ce temps et voyez tous les bienfaits que cela vous apporte. Puis un autre exercice, si vous le voulez bien, une respiration en 4 temps. Toujours assis confortablement, le dos droit, vous respirez en 4 temps équivalents. C'est-à-dire que vous commencez par souffler naturellement, puis inspirez à fond sur 4 temps, bloquez votre respiration sur 4 temps, soufflez, videz complètement vos poumons sur 4 temps, bloquez votre respiration sur 4 temps et prenez une pause. Et vous pouvez recommencer plusieurs fois. Voilà pour aujourd'hui. J'aimerais vous signaler un nouveau programme de formation de relaxologue. Vous allez pouvoir retrouver plein d'exercices de respiration, évidemment, c'est à la base de la relaxation. À partir du mois de mai, 6 modules à Villefranche de Rouergue. C'est une formation que je propose à tous. Formation de relaxologue, tout nouveau. Voilà, l'émission prend sa fin, malheureusement, ça passe très vite. Prenez bien soin de vous, restez à l'écoute de CFM, mais surtout, restez à l'écoute de vous-même. À très bientôt, ciao.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolor, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand-chose.